Bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, ce que je propose aujourd'hui, dans le cadre de ce message, c'est de parcourir et étudier en profondeur un texte que on pourrait appeler, en fait, le jour d'après. Alors, pourquoi le jour d'après? En faisant référence à un film qui s'appelle comme ça et qui, en fait, qui raconte ce qui se passe pour les hommes le lendemain d'une grande catastrophe. Quelque chose de terrible. Et c'est exactement dans ce texte que vivent des personnes qui sont très proches de Jésus et ses disciples. Elles viennent juste de vivre une catastrophe. Et là, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour elles le jour d'après. Alors, ce n'est pas vraiment le jour d'après, puisque au milieu, c'est plutôt le troisième jour. Mais comme juste après, il y avait le jour du sabbat, où en fait, la vie s'arrête et il ne se passe pas grand-chose. Finalement, le vrai jour d'après où les gens recommencent à vivre, c'est ce jour-là, ce jour de dimanche qui est aujourd'hui pour nous le jour de Pâques. Alors, nous savons aujourd'hui que finalement, ce jour d'après, il ne suivait pas une catastrophe. C'était le jour d'après quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, nous aussi dans la salle, pour la plupart, on a vécu un jour merveilleux hier, le jour d'après d'une grande occasion de joie. Et c'est vrai que moi, je voulais partager quelques secondes par rapport à ce que j'ai vécu hier dans ce merveilleux mariage et que pour la plupart d'entre vous, vous y étiez aussi. Où vraiment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la personne de Jésus-Christ était le personnage principal du début jusqu'à la fin. Et ça, c'était vraiment marquant. C'était beau de voir un mariage où l'époux, finalement, ce n'était pas le marié vêtu de son plus beau costume, mais l'époux, c'était Jésus-Christ. Et la mariée, ce n'était finalement pas la mariée qui avait sa plus belle robe, la plus belle robe de sa vie, mais la mariée, c'était l'Église de Jésus-Christ. Et ça transparaissait vraiment dans ce mariage. Hier, on a vu une représentation concrète de l'union de Christ et de son Église au travers de Jude et Célia qui se sont unis. Et c'était beau. C'était glorieux de voir de quelle manière notre Seigneur agit concrètement dans notre vie. Hier, nous nous sommes tous unis encore une fois à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander, même s'ils ne sont pas là ce matin, de les acclamer, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous acclamons à travers eux. Vraiment, acclamer notre Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion de joie. Donc je vais revenir à notre passage qui se situe dans le livre de Marc, au chapitre 16. Et nous allons lire tous ensemble, et je vous invite aussi, après la lecture, à conserver vos Bibles ouvertes à cette page-là, parce que nous allons souvent revenir sur des passages, sur des parties de ce passage. Je lis au nom du Seigneur. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. » C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant, qu'il lui était apparu, ils ne la crurent pas. Après cela, Alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres. Mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui ont cru, qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poisson mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé ainsi, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Voilà ce récit du jour d'après qui, pour des personnes qui sont dans le passage finalement, sont le jour d'après d'une catastrophe, alors que nous, au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est plutôt... ça aurait dû être le jour d'après d'une occasion de joie. Dimanche dernier, c'était le jour de Pâques et nous avons célébré la victoire de Jésus-Christ. Mort sur la croix le vendredi, ressuscité des morts le troisième jour. De tous les miracles accomplis par Jésus, c'est certainement celui qui a le plus de valeur, le plus d'incidence sur notre vie. Puisque Jésus-Christ a parachevé au travers de sa mort et de sa résurrection toute l'œuvre des rédemptions qui était sa volonté et le but principal de sa mission sur terre. Christ est devenu définitivement le seul chemin qui était donné aux hommes sur la terre et qui mène au Père, c'est-à-dire au royaume des cieux et à la vie éternelle. Au vu de toutes ces choses extraordinaires qui se sont passées avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et c'est son implication sur la vie de tous les hommes, on peut vraiment dire que ce dimanche de résurrection de Jésus, c'est un événement qui a un retentissement planétaire. D'une certaine manière, c'est une sorte de cyclone, de tremblement de terre, de tsunami qui emporte tout ce qui était le fondement de notre vie avant, pour laisser place à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais comme on l'a vu, pour la famille et les disciples de Jésus-Christ, c'était plutôt un événement majeur aussi dans leur vie, mais un événement dévastateur. Un cyclone, un tremblement de terre, un tsunami, parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs était parti, avait disparu. Donc il y a vraiment un parallèle qu'on peut mettre entre ce qui s'est passé pour les proches et la famille de Jésus-Christ et ses disciples ce jour-là, et finalement ce que ça représente, ce même événement, pour nous aujourd'hui. Je voudrais faire référence aussi à un autre événement d'une certaine façon spectaculaire, mais qui est plutôt destructeur. Dans l'actualité récente, en faisant référence à ce qui s'est passé au Sri Lanka il y a quelques jours, la semaine dernière. Vous savez qu'il a été perpétré un horrible massacre et en visant justement des personnes qui étaient censées être chrétiennes ou représentatives de pays, de peuples, de cultures chrétiennes. Ces personnes étaient visées pour cette raison-là. Et le jour de Pâques, des centaines d'hommes ayant la foi en Jésus-Christ ou simplement assimilés à une origine ayant une culture chrétienne ont été ciblés et tués de manière massive et aveugle. C'est vrai que suite à ce massacre, nous sommes choqués, nous sommes horrifiés, nous sommes désemparés face à la barbarie, face à la violence aveugle qui cible les disciples de Christ ou supposés disciples. D'une certaine manière, cet événement nous aide aussi à nous remettre dans le contexte de ce qu'ont vécu les proches de Jésus et les disciples suite à la mort de Jésus. On est un peu dans le même état d'esprit, où on se pose des questions, on se demande pourquoi autant de haine, pourquoi est-ce que ces personnes ont été assassinées sans aucune raison valable. C'était un peu la même chose pour Jésus. Ils ont jugé sa vie et n'ont rien trouvé à redire. Et pourtant, la foule déchaînée a demandé à ce qu'il soit mis sur la croix et qu'il soit crucifié. Et donc, suite à ça, on se réveille avec un sentiment de deuil et d'injustice. C'est vrai, nul ne sait précisément quel est le plan de Dieu pour le Sri Lanka, en particulier pour toutes les familles qui ont été endeuillées et dont nous partageons les pleurs et la douleur. Mais néanmoins, nous pouvons affirmer avec force que la volonté de Dieu est souveraine, que sa sagesse dépasse toute notre intelligence et que ses plans sont pour nous tous des plans de bonheur et non de malheur, pour tous ceux qui le craignent. Mais vous savez bien, si je me mets à la place des personnes au Sri Lanka, que quand le malheur survient, mais notre foi est durement mise à l'épreuve. Elle chancelle. La conséquence, c'est que le message de l'Évangile peut avoir du mal à passer. Il peut se brouiller dans notre tête. Il peut laisser place à l'inquiétude, à la peur. Beaucoup de questions sans réponse se multiplient dans notre pensée. Que va-t-il advenir de nous dans ce monde qui rejette de plus en plus violemment le Christ et son Église ? Allons-nous devoir vivre dans la peur permanente des risques de persécution ? Que fait Dieu pour nous protéger ? Et par exemple, pourquoi a-t-il laissé perpétrer ce massacre ? Pourquoi il ne s'est pas opposé ? Sommes-nous totalement abandonnés à notre sort, à notre tristesse, à notre solitude, à notre désolation dans ce monde, jusqu'à ce que Christ revienne enfin ? Et en attendant le retour de Christ, que nous dit la parole de Dieu concernant nos priorités de vie sur la terre ? En réponse, au moins partielle à ces questions, observons attentivement ce que la Bible nous dit concernant les événements qui ont suivi la mort de Jésus-Christ. Et je pense que nous pouvons en tirer des enseignements pour notre vie quotidienne, pour notre vie tous les jours. Alors, la première constatation que nous pouvons faire, c'est que les personnes les plus proches de Jésus, les disciples et ceux qui le pleuraient le plus que n'importe qui d'autre, ils n'ont pourtant pas cru en son enseignement. C'est étonnant. Hein ? Lui qui annonçait à l'avance et à maintes reprises sa mort prochaine et sa résurrection. Et on voit au verset 1 qui est écrit « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie de mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Le zèle de ces femmes est admirable, il est digne de louange. Elles bravent le camp, dira-t-on, les risques de persécution pour aller rendre un dernier hommage à Jésus. Par amour pour lui, nous aussi, chrétiens, nous pouvons être très zélés. Nous avons envie de faire des choses pour Jésus. Nous sommes prêts à combattre l'adversité. Nous sommes prêts à aller au-devant des problèmes pour accomplir de bonnes actions, pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus, selon ce que nous pensons. Mais dans certains cas, même nos bonnes intentions peuvent malheureusement manquer leur cible. Pourquoi ? Par méconnaissance de la parole de Dieu et de ses enseignements. Quiconque aurait aimé Jésus, l'aurait suivi, aurait écouté tous ses enseignements, aurait attentivement écouté, saurait que le Messie devrait ressusciter le troisième jour. Il ne serait pas dans un tombeau, mais bien vivant. Alors les bonnes intentions des femmes qui se rendent au tombeau traduisent une foi ardente, une foi zélée, mais qui manque encore de maturité, puisque l'essentiel du message de l'Évangile n'est pas encore compris. Du coup, par ignorance, elles manquent leur cible. Elles ne trouveront pas Jésus. Mais néanmoins, Jésus, lui, n'est pas surpris par leur réaction. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Elles se trompent, mais Jésus savait qu'elles allaient se tromper. Il n'est pas surpris. Il a prévu d'avance ce manque de maturité pour ces femmes qui se rendent au tombeau et qui manquent de... Il a prévu d'avance que le message qu'il avait donné n'était pas encore bien compris. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Malgré nos imperfections, malgré notre manque de maturité, Jésus, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grande sagesse aussi, il a prévu de les accompagner. Il a prévu de les soutenir. Il a même prévu une mission pour elle. Elle se trompe, mais Jésus, lui, même dans la manière dont elle se trompe, lui, il a déjà prévu qu'elle se tromperait. Il a prévu de les accompagner, il a prévu de les soutenir, et il a même prévu d'utiliser le fait qu'elle se soit trompée pour son ministère, pour son royaume. Et ça, c'est incroyable. Elle rencontre un ange dans le tombeau qui leur dit, qui leur fait constater que Jésus-Christ n'est né plus là, il est bel et bien ressuscité, et il les charge d'une mission. Il les charge d'aller témoigner de ce qu'elles ont vu concrètement dans le tombeau, ou plutôt de ce qu'elles n'ont pas vu. Christ n'est plus mort, il n'est plus enseveli, il est ressuscité des morts. Et on peut le voir au verset 5, ce qui se passe. Elles furent saisies de frayeur, mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Mais vous vous souvenez de ce qu'on venait juste d'évoquer ? On parlait d'une foi zélée, certes, mais encore immature. Et le problème, c'est qu'une des manifestations courantes d'une foi qui est encore immature, mais c'est que ce sentiment de peur, le sentiment de peur qui tourne vite à la panique. À cause d'un manque d'expérience, à cause d'un manque de vécu. Des chrétiens qui ont un long vécu derrière eux, eux aussi, ils ont peur, souvent. Personne n'échappe à la peur. Mais leur degré de confiance en Jésus-Christ leur permet de ne pas céder à la panique. Et ça, ça fait la différence. Le sentiment de peur, c'est quelque chose qui nous met en garde. Il nous réveille, il nous permet de nous préparer à la bataille, à l'adversité qui va venir. En revanche, la peur qui tourne à la panique, ce n'est pas la même chose. Elle a des effets pervers. Elle nous pousse à la faute, elle nous pousse à désobéir. Et on voit au verset 8, elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne tant elles étaient effrayées. Dans ce passage, on voit de manière claire que la peur panique est très mauvaise conseillère. Elle peut empêcher d'être attentif au message de l'Évangile. Elle peut aussi se mettre en travers de la route de ceux qui veulent obéir à Dieu. D'une manière générale, la panique, la peur panique, est très différente de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un acte d'adoration, alors que cette peur est plutôt un facteur de désobéissance à Dieu. Elle ne contribue pas à notre édification. Mais jusque-là, on a évoqué les femmes qui vont au tombeau. Mais on sait qu'il y a d'autres personnages dans ce texte qui étaient aussi très proches de Jésus, qui étaient ses disciples, qui ont écouté ses enseignements jour après jour. Est-ce qu'eux, ils ont fait preuve d'une foi plus mature que celle de ces femmes, à votre avis ? En fait, non. Et on le voit au verset 9, on peut lire « Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant, qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. C'est quand même assez particulier. On remarque quelque chose quand même, c'est que Jésus passe à la vitesse supérieure. Jusque-là, il avait fait annoncer qu'il était ressuscité par un intermédiaire. Ça n'a pas très bien marché. Et là, il se dit, j'y vais moi-même. Il se révèle personnellement à Marie de Magdala et après à deux disciples. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ben, ils ont cru. Ça fait une énorme différence. Jésus se révèle en personne, il apparaît personnellement à Marie de Magdala aux deux disciples. Et l'effet est enfin positif. Ce que moi j'y vois, c'est que Jésus suscite l'obéissance en se révélant personnellement à chacun d'entre nous. Jésus est personnellement l'auteur de notre foi. Aucun d'entre nous ne peut tirer une gloire personnelle de sa foi. Nous devons tout à Jésus. Tout est à lui, tout est pour lui. Notre foi, nous la devons à Jésus. Une autre manifestation courante de ce fameux manque de maturité dans la foi que nous avons vu, c'est, on l'a vu, la peur qui tourne à la panique, mais c'est aussi le manque de confiance. Or, vous savez que la foi et la confiance, ça va de pair. Et on voit à quel point les disciples de Jésus, dans ce texte, on nous l'aurait dit plusieurs fois, sont dans l'incrédulité. Ils ne croient pas, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils ont entendu. Ils sont dans une grande tristesse, ils sont en larmes, alors qu'au contraire, ils auraient dû être en train de se réjouir. Ils n'ont pas vraiment cru, ils n'ont pas compris pleinement tout le message de l'évangile de Christ. Et à cause de ça, ils sont tristes et découragés. Par conséquent, lorsque la bonne nouvelle de la résurrection leur est confirmée, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Dans ce passage, les seuls qui finissent par croire, ceux qui étaient déjà censés savoir à l'avance, ce sont ceux à qui Jésus apparaît personnellement. Mais une fois de plus, comme dans le cas des femmes qui sont allées au tombeau, Jésus n'est pas surpris par leur incrédulité. Je pense qu'il devait avoir une forme de déception, mais Jésus a une sagesse telle qu'il savait ce qui allait se passer. Et Jésus revient encore et toujours à la charge pour lever toutes les barrières qui nous séparent de la confiance en lui, de la foi en lui. Sa patience est vraiment grande. Il nous annonce qu'il va mourir et ressusciter. Il le fait dire par un envoyé de Dieu. Et on ne croit toujours pas. Mais Jésus est d'une patience infinie. Il n'est pas simplement d'un amour infini pour nous. Il est aussi très, très patient dans nos manquements. Il revient toujours à la charge parce qu'il veut nous sauver. Nous pouvons vraiment être reconnaissants devant l'œuvre merveilleuse, miraculeuse de Jésus-Christ qui amène personnellement chacun d'entre nous à croire en lui, à avoir la foi qui nous permet de proclamer qu'il est le Messie, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus ne fait pas que ça. Il ne fait pas que susciter notre foi. Il va beaucoup plus loin que ça. Une fois qu'il a suscité cette foi, une fois que nous lui faisons confiance, mais Jésus va nous montrer concrètement, dans notre vie de tous les jours, qu'il est bien ce Dieu vivant que nous adorons. Il va nous montrer concrètement dans notre vie chaque jour qu'il nous accompagne, qu'il est avec nous, qu'il répond à nos interrogations, qu'il nous soutient dans la douleur, qu'il nous oriente quand nous le recherchons, quand nous nous posons des questions, quand nous ne savons pas quoi faire. Mais Jésus est là chaque jour avec nous. Il ne suscite pas notre foi pour après disparaître le lendemain et nous dire « C'est bon, vous pouvez vous débrouiller maintenant, ça y est, j'ai fait mon boulot. » Non, il est avec nous encore, jour après jour. Et ce passage nous montre de façon concrète de quelle manière Jésus peut agir dans notre vie, comment il peut répondre à nos besoins, à nos demandes, à nos interrogations. On va voir quelques illustrations ensemble. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne se contente pas de répondre, comme n'importe lequel de personne dans la salle pourrait répondre à une de vos questions. Lui, il a la bonne réponse, il a la réponse parfaite, parce qu'il sait tout, parce qu'il est celui qui a créé ce monde, il était là au commencement. Et les réponses de Jésus, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous, parce que c'est toujours la bonne réponse. Au verset 3, nous avons lu, et je reviens là-dessus, « En chemin, elles s'étaient demandées les unes les autres. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Ben, ça n'a l'air de rien comme ça, ça a l'air terre à terre. Mais quand vous êtes des femmes qui vont au tombeau de Jésus, que vous savez qu'il y a une pierre qui pèse des tonnes devant et que vous êtes juste incapable de la rouler, vous vous posez vraiment la question, mais comment on va faire? Et vous n'avez pas forcément la solution. Même dans ces choses terre à terre de la vie de tous les jours, vous pouvez invoquer le nom de Jésus. Jésus peut nous répondre même dans ces interrogations qui n'ont pas l'air si spirituelles que ça, mais qui sont des vraies interrogations pour nous. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre, que Jésus-Christ, il nous accompagne vraiment tous les jours, mais dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Les prières des femmes concernant la pierre qui allait les empêcher de rentrer au tombeau sont exaucées. Et pourtant, on voit que la réponse du Seigneur, elle n'est pas simplement matérielle, elle est aussi spirituelle. Il y a toujours un but spirituel derrière la manière dont nous répond Jésus. Parce que ça nous permet d'augmenter notre confiance en lui. Jésus nous montre concrètement que dans notre vie de tous les jours, il agit et il peut même aller jusqu'à déplacer des montagnes. C'est ce que je vois un peu dans cette symbolique de cette grosse pierre qui est déplacée. Jésus peut déplacer des montagnes devant nous qui constituent des obstacles pour nous aplanir la route. Et il le fait si c'est sa volonté et si cela nous amène à croire en lui, à lui faire confiance. Son but, c'est notre édification. C'est que notre foi grandisse et qu'elle s'affermisse. Ayons foi en Jésus-Christ. Ayons l'assurance qu'il possède la solution pour toutes les choses qui, nous paraissent totalement impossibles. La foi en Dieu lui donne l'occasion de nous convaincre de toute sa puissance en agissant dans nos vies. Mais vous savez, si nous n'avons pas la foi, même une montagne déplacée devant nous n'aura aucun effet. C'est vrai. On pourra toujours essayer de trouver une raison supposée scientifique, géologique, historique ou je ne sais quoi. Même une montagne déplacée devant nous, si nous n'avons pas la foi, nous ne verrons jamais Jésus-Christ derrière. Mais Jésus-Christ n'agit pas toujours de façon très visible et très physique des choses qu'on voit. Il peut aussi agir de manière très confidentielle, dans le plus profond de notre cœur, dans le secret de notre cœur, pour répondre à des besoins intimes, des manques que nous avons personnellement et que personne d'autre n'a, toujours dans le but d'affermir notre foi. Et nous avons un détail dans ce texte, une des choses vraiment les plus formidables que j'ai trouvées. Ça n'a l'air de rien comme ça quand on le lit, mais c'est juste incroyable. Au verset 7, il est écrit « Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Vous remarquez ce qu'il y a dans cette phrase? Il y a une expression qui a l'air de rien. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a écrit « Et aussi à Pierre ». Christ s'adresse là personnellement à l'apôtre Pierre. Il vit quelque chose de particulièrement difficile. Vous savez ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre? Il a renié Jésus publiquement, mais pas une fois. Encore une fois. Dans quel état vous seriez si vous aviez fait ça? Si vous avez renié votre maître publiquement devant tout le monde? L'apôtre Pierre est dévasté. Il se dit que Jésus ne l'aime plus. Jésus ne peut plus l'aimer après ça. Ce n'est pas possible. Il se dit, même si on vient en annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus, lui, il ne va jamais le prendre pour lui. Jamais. Il va se dire, c'est pour les autres disciples, mais moi, je sais que Jésus, il n'en a plus rien à faire de moi. Et là, il est écrit « Allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Jésus répond à nous dans des choses les plus profondes que nous avons dans notre cœur. Il est capable de lire ça et il pense à nous, il nous soutient aussi là-dessus. Et ça, je trouve ça formidable. Formidable. Le Seigneur manifeste un amour tout particulier pour son pauvre disciple Pierre qui devait être plongé dans le doute au souvenir de son reniement. Et Jésus prend la peine de le réconforter, de lui faire comprendre qu'il n'est pas renié à cause de ses manquements. C'est un symbole fort aussi de la mort de Jésus mort et ressuscité. Nos péchés sont pardonnés. Et nous l'obtenons par une grâce imméritée. Vous voyez, Pierre n'est pas récompensé par quelque chose qu'il aurait fait de très bien. La grâce est imméritée. Il ne le mérite pas, mais il l'a pleinement, pleinement, en raison du sacrifice de Jésus-Christ. Non seulement Pierre est pardonné, mais il n'est pas pardonné à moitié. C'est pas, ouais, je veux bien te pardonner un tout petit peu, mais je garde quand même le souvenir de ce que tu as fait, donc... Ta récompense, je vais la raboter. Ben non, vous savez ce qu'est devenu l'apôtre Pierre. Il est pardonné et Jésus a pour lui une mission incroyable. Le fondement de la construction de son Église, celui qui l'avait régné. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, mais que vous avez en abondance. Que vous avez, ça vous submerge l'amour de Jésus-Christ. Et c'est vrai, on peut lire, juste pour, je m'écarte un peu du texte, mais n'y allez pas dans Matthieu 16 au verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, il parlait à l'apôtre Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Jésus tient à la promesse qu'il avait faite à l'apôtre Pierre, malgré le fait qu'entre-temps, il a été renié et qu'il y a eu des manquements. Jésus tient les promesses qu'il nous fait. Ces promesses ne dépendent pas du fait que nous soyons toujours droits et que nous ne fassions pas d'erreurs. Quand il fait une promesse, il sait pourquoi il le fait et il tient ses promesses. Et finalement, le fait qu'il tienne ses promesses, ça nous renforce dans notre foi, ça nous amène à nous édifier et à reconnaître toute la puissance de son amour. Et ça, c'est vraiment une belle promesse que nous pouvons reprendre à notre compte personnel. Dans ce que nous avons caché au fond de notre cœur, nos besoins, nos manques, des choses qui nous font très mal. Mais nous pouvons le remettre à Jésus-Christ. Il le voit et il est capable de nous soulager. Il est capable de s'occuper de nous personnellement. Sa grâce va jusque-là. Mais je ne vais pas venir devant vous ce matin pour vous dire que la grâce de Jésus, c'est simplement de résoudre nos problèmes. Jésus n'est pas mort et ressuscité simplement pour résoudre nos problèmes. Il y a quand même quelque chose qui va bien au-delà de ça. Ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, ce qui nous permet de nous ancrer en lui. En fait, Jésus, ce qu'il veut, c'est transformer toute notre vie. Pas simplement résoudre nos problèmes. Transformer notre vie de fond en comble. Christ n'est pas venu sur terre pour nous soulager physiquement ou moralement, simplement, de tous les problèmes terrestres. Il est venu pour sauver notre âme, pour soulager notre âme de toute emprise du malin. Une délivrance totale et sans retour. C'est là son but principal. Nous avons vu les contemporains de Jésus, de ses proches et ses disciples, qui l'aimaient de tout leur cœur, qui l'ont écouté tous les jours et qui n'ont pas réalisé toute la portée de son ministère, qui n'ont pas réalisé toute la magnificence, toute la gloire qu'il y avait dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus le savait. Il lit comme un livre ouvert dans leur cœur. Il sait les doutes, il sait les faiblesses. Et il a répondu à ce manque de foi. Et il a répondu à leurs interrogations. Il a répondu à chacun. Et Jésus peut aussi décider d'agir envers nous d'une autre manière. Il peut décider de nous remettre en question, de nous confronter à nos insuffisances, à nos défauts. Pas pour nous accuser, mais pour nous permettre de les dénoncer. Et on voit au verset 14, il est écrit, « Plus tard, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Mais même les reproches de Jésus ont une valeur spirituelle importante, dans la mesure où elles suscitent une prise de conscience de nos fautes, de nos péchés, de notre incrédulité, pour nous amener à nous repentir, pour nous amener au pardon des péchés, à la sanctification. Mais il n'y a pas de pardon sans repentir. La première étape, c'est déjà de reconnaître ses fautes, de reconnaître son état et de dire à Jésus-Christ, « Regarde comme je suis, toi seul peux me laver, toi seul peux me pardonner. » Donc Jésus-Christ parle à ses disciples, il leur reproche leur incrédulité, mais pour qu'ils prennent conscience de leur péché, et comme ça, ils pourront le dénoncer et être pardonnés. Donc Jésus met en lumière la faiblesse spirituelle de ses disciples, non pas pour les accabler, mais non pas pour les condamner, mais au contraire pour les affermir, pour les transformer spirituellement en faire de fidèles serviteurs du Dieu vivant. Vous savez, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne partage pas. C'est un Dieu qui veut occuper toute la place dans notre cœur. Alors quand il y a des choses dans notre cœur qui ne lui plaisent pas, il les dénonce. Il les dénonce pour prendre toute la place, pour qu'il n'y ait plus que lui, qui soit à la direction de notre vie et qui remplisse complètement notre vie. Et il peut encore aller plus loin, et c'est le dernier renseignement qu'on va avoir dans ce passage. Il peut aller encore plus loin que simplement se contenter d'une mise en garde personnelle ou secrète. Il peut, si c'est nécessaire, décider d'agir de façon spectaculaire pour convertir les cœurs, avec des signes miraculeux. Et c'est ce qu'on voit aussi au verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux qui seront guéris. Lorsque Jésus accomplit des miracles, lorsqu'il agit de manière spectaculaire, ce n'est pas pour se donner en spectacle. Ce n'est pas pour être célèbre et adulé dans le monde, pour être une rockstar. Non, ce n'est pas ça le but. Christ frappe les yeux et les esprits pour sauver des âmes. Et il peut accomplir des miracles prodigieux pour que les âmes perdues reconnaissent qui il est. Pour que les âmes reconnaissent sa divinité et se tournent vers lui. Et des miracles, ça n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Selon les cultures, selon les époques, la notion de miracle ne prendra pas forcément la même forme aux yeux des hommes et des femmes. Aujourd'hui, par exemple, ça tient du miracle de pouvoir manger une nourriture saine. Vous n'êtes pas d'accord? Une nourriture qui n'est pas souillée par un procédé chimique pour tuer des mauvaises herbes, pour faire pousser plus vite les plantes, pour éviter les attaques de parasites, améliorer la forme et la présentation des produits pour les conserver plus longtemps. Et pourtant, il fut un temps où c'était simplement la normalité d'avoir une nourriture saine. Aujourd'hui, c'est un miracle. En revanche, pour nous, aujourd'hui, c'est normal de rouler dans une voiture à 100 km/h, voire plus, prendre l'avion pour aller faire ses courses, faire un tour sur la Lune, faire des calculs scientifiques avec un ordinateur qui est contenu dans un téléphone portable. Bref, des prodiges hallucinants pour des personnes d'une autre époque. Ben, ils auraient vu ça. Je pense que ce serait même au-delà du miracle. Un miracle, c'est finalement une manifestation à nos yeux particuliers, en fonction de notre propre vécu, qui est merveilleuse et qui nous fait réaliser toute la portée et la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Alors, ça peut prendre toutes les formes possibles, pas forcément très spectaculaires, pourvu que ça nous permette, ça contribue à nous révéler la nature et la personne de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Sauveur, notre Consolateur. Alors, comme on l'a vu, Jésus-Christ a déjà tout accompli pour notre salut. Il est mort et ressuscité à notre place. Et maintenant que Jésus a tout accompli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce qu'il nous reste simplement à rester assis, les bras croisés, à nous dire, notre Seigneur, tu as tout fait, et nous, nous n'avons plus qu'à profiter, à regarder les fruits tomber. Est-ce que c'est ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est ce qu'il dit à ses disciples, une fois qu'il a tout accompli pour leur salut? Au verset 15, on peut le lire, et c'est vraiment très clair, les instructions que notre Seigneur Jésus-Christ a pour nous. Celui à qui nous devons tout, celui à qui nous devons notre foi, celui à qui nous devons notre vie. Il nous dit, et il écrit, et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. Tout est écrit. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Simplement obéir à notre Seigneur et Sauveur. L'obéissance à Dieu, après que Christ ait tout accompli, consiste à aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus-Christ nous dit la vérité. Il ne nous ment pas. Il ne nous fait pas croire des choses qui ne seraient pas la vérité. Celui qui croira en lui et sera baptisé sera sauvé. Et si ce n'est pas le cas, vous ne le serez pas. Alors, allez dans le monde entier. Et en commençant autour de nous, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour proclamer la vérité, celle qui parfois dérange, celle qui met en lumière notre nature pervertie, celle qui révèle le ministère de Christ pour anéantir l'emprise du malin sur notre vie, celle qui sauve et apporte l'espérance. Et on le voit, annoncer la parole de Jésus-Christ, de l'Évangile dans le monde entier, ça commence dans notre entourage. Déjà, vous pouvez le lire au verset 6, ce qui est dit. « Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. » Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Déjà, dans votre entourage. Mais ce ne sera pas facile. Et nous sommes prévenus que même les personnes qui suivent Jésus, même les personnes qui le connaissent, ils auront du mal parfois à croire ce qu'on leur dit. Ils auront du mal à accepter la vérité qu'on leur apporte, et seront réfractaires, incrédules, rebelles. On le voit avec les disciples de Christ. Déjà, vous avez des personnes qui refusent de comprendre et de croire ce qu'on leur dit. Être confronté au message de l'Évangile, ça peut faire très peur. Souvent, on n'est pas prêt à l'entendre. Souvent, on est trop triste ou trop tourmenté. Souvent, on est réfractaire et incrédule. Souvent, notre cœur est endurci par les épreuves de la vie ou par les horreurs qu'on observe dans ce monde perverti. Souvent, on a peur des conséquences pour nous aussi et pour notre famille. Souvent, on a peur d'être condamné par le monde. On a beau entendre parler de Jésus-Christ, on a beau lire la Bible, on a beau assister à des miracles, finalement, seul Jésus-Christ est capable de nous transformer, de changer notre cœur, de nous donner la foi comme un cadeau gratuit et mais un cadeau inestimable. C'est Christ lui-même qui nous convertit. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne la foi, la capacité de croire en lui. Et c'est lui qui est à l'origine de notre salut de toutes les manières possibles. Alors, si déjà des personnes élues et choisies par Christ, comme on voit pour les disciples, se révèlent réfractaires au premier abord pour accepter Christ, souvenez-vous en particulier de l'apôtre Paul. Alors imaginez comment vous serez reçus par les autres dans le monde. Encore bien pire, au mieux de l'indifférence, au pire même de la persécution. Mais ce qui importe, c'est d'obéir à Christ. De la même manière que Christ a obéi à son Père. Et donc, pour conclure, on lira simplement les derniers versets de ce passage, à partir du verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus, c'est vrai que quand nous lisons ce texte une première fois, au premier abord, ça ressemble simplement à une histoire banale d'hommes et de femmes qui sont dans le malheur et qui, dans la tristesse, et qui sont perdus, qui n'ont plus aucun espoir, qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir, parce qu'ils croient avoir tout perdu. Mais Seigneur, c'est vrai, au travers de ce passage, de cette parole dans ton livre de vie, tu nous montres combien tu nous aimes. Tu nous montres aussi combien nous pouvons être faibles parfois, mal assurés, incrédules. Mais tu es là avec nous pour nous accompagner sur le chemin chaque jour. Une fois que tu as suscité notre foi, tu nous accompagnes, tu lui permets de grandir, tu nous permets d'avoir cette confiance en toi qui grandit pour accomplir tout ce que toi, tu as déjà prévu d'avance dans ton plan pour notre vie. Mais Seigneur, je voudrais surtout te dire merci. Merci parce que c'est toi qui es à l'origine de ma foi, c'est toi qui es à l'origine de mon salut, c'est toi qui me sauves. C'est grâce à toi que je peux proclamer que j'ai cette espérance de vie éternelle. Je suis sauvé. La mort ne peut plus rien sur moi. Et Seigneur, tu m'accompagnes chaque jour. Tu es là pour me conseiller, pour me guider, pour me reprendre, mais surtout pour m'accompagner dans la réalisation de choses merveilleuses que toi seul peux réaliser et simplement tu m'utilises. Seigneur, fais de nous des serviteurs. Fais de nous des serviteurs fidèles qui te craignent, mais qui t'aiment et qui n'attendent qu'après toi pour toutes choses. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu vas encore accomplir aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Amen.